130 livres, chronique du 31 janvier 2022, un barrage contre l'Atlantique, de Frédéric Becbédé. Lire un livre tout entier en un après-midi apaise le chroniqueur qui se croit surmené. Dès la deuxième page, Becbédé s'assume ici en phraseur indécrottable. Rien de plus retors qu'un critique littéraire, il anticipe chaque coup de raquette de ses homologues. Que l'auteur ait intitulé sa première partie « phrase » eût certes pu nous mettre sur la voie encore plus tôt, que les dites unités grammaticales composées d'éléments ordonnés capables de porter l'énoncé complet d'une proposition, selon le Larousse, composent un propos discontinu et soient espacés d'un double interligne, accentuent l'effet produit. Becbédé se désespère à l'idée d'échouer si ces phrases n'accrochent pas son lecteur, et d'entrée, elles accrochent peu. Comme la foule d'écrivains auxquels le double réel d'Octave Parango emprunte leur procédé, Édouard Levé est invoqué, lui et son autoportrait épousant la forme d'une mosaïque de phrases. Chevillard aussi, dont Becbédé reconnaît la supériorité, a raison. Je ne cite personne sauf Marc Aurèle, suivi comme de juste d'une flopée d'autres citations. Après tout, le zozo dont il est question peut bien se transgresser lui-même. L'effet produit demeure malgré tout qu'on se sent un peu bas du front si l'on peine à le suivre. Tout ça fleur bon la rouerie. Avec ses juxtapositions aérées, Becbédé affirme s'interroger sur la littérature à l'heure de Twitter, depuis que les écrivains ont perdu le monopole de la phrase bricolée puis publiée. L'impression qui prédomine est qu'il tente surtout de rester inspiré en étant Frédéric Becbédé, donc revenu de pas mal de choses, y compris et surtout de Frédéric Becbédé. On s'intéresse tout de même au personnage réel de Benoît Barthérot, bâtisseur inlassable d'une digue pour défendre la langue de terre aquitaine qu'on appelle le Cap Ferret. Ah oui, se rappelle-t-on, avant qu'il soit question de Becbédé et de ses phrases, le tome 2 d'un roman français s'ouvrait sur le probable complot de la nature pour éradiquer ce parasite qu'on nomme humanité. C'est dramatique, on en conviendra, toutefois le phraseur affirme très vite que son lecteur s'emmerde à nul doute autant que lui. Certaines phrases tombent à plat, fracassent des portes ouvertes, clichetonnent comme pas permis, et puis quand Becbédé se rêve en dealer de phrases, il surprend un poil moins son monde que ne l'aurait fait Jean d'Ormesson. Même lorsqu'il aborde son évidente dépression, le parapluie de l'autodérision est grand ouvert. On assiste ainsi à une manière de championnat du monde de chat-perché dont il lâche l'air de rien que c'est terriblement exigeant. Surexposer une phrase peut nuire à sa légèreté. Le joli parallèle entre Barthérot qui jette ses gros cailloux dans l'océan comme lui jette ses mots sur la page blanche prend un peu du bide et du cul. Mon exemplaire est franchement crade, les pages sont tachées, on est chez Grasset, zut quoi. Becbédé écrit « rab » avec un « e » final, ce qu'autorise à faire le Larousse. À force de phraser, on finit par triompher. Je cite « Quoi qu'il arrive dans la vie, à la fin, Claude Lanzmann meurt. » Tout ça fait quand même beaucoup d'explications pour un voyage guettari Cap Ferret, soit l'essence même du projet. Dans le livre 2 « Sur le bord du monde et de la nuit » qui succède à « Phrase », Becbédé revient sur ses 20 ans lorsque la ville a séparé du Benoît Barthérot qui quitta Paris à la même époque. Je cite « Partout dans Paris, des sonneries résonnaient dans des salons vides. Il faut avouer qu'on a rarement mieux décrit une jeunesse sans téléphone portable. » Le bouquin gagne en densité lorsqu'il se fixe sur un sujet, comme un putain de livre en somme. Les fêtes furent pour l'auteur un « subterfuge pour cesser d'être invisible. Même les gosses de riches ont leurs insécurités, leurs grands frères plus charmants qu'eux, leur père qu'ils admirent sans doute trop, leur mère qui les suffoque à force d'amour vrai, leurs manuscrits trash au possible, écrits sur des cahiers d'écoliers qu'ils proposent à un éditeur pour leurs 14 ans. On goûte la suavité des premiers émois amoureux de Becbédé avec les filles à maman divorcées, aussi délicieusement amoureux, polyamour en Jacadie, que Candide. Ah, les nuits sans pénétration, enlacées comme des chatons. Breaking news, les femmes punissent les niais et récompensent les salauds. On n'était pas censé parler des rochers du Cap Ferret. Certes, les slots d'antan relevaient d'un possible rituel de domination masculine, mais leur souvenir chez Becbédé demeure confit dans le regret de toutes les filles qui ne firent pas le premier pas. Les souvenirs subséquents de froides notations entre copains des coups qu'on a tirés émeuvent déjà moins, c'est le but, quelque chose s'est perdu. L'enchaînement du fist-fucking sur l'évocation de Victor Hugo surprend un peu. L'attrait pour le SM et les lectures licencieuses à 10 ans, des lectures qui font jouir de honte, avouées, sont à moitié pardonnées. La rupture de mes parents est l'unique cause de la fin du monde. C'est tellement beau qu'on a dû l'écrire 800 fois. Becbédé évite avec grâce les procès en vieux conneries en reconnaissant la perversité intrinsèque des années qu'il eut pu ripolliner jusqu'au bout, les limites de la révolution sexuelle qui débrida certains élans coupables. Je cite « Rien ne peut rivaliser avec l'orgasme, le reste a cessé de m'intéresser, ainsi soit-il. » C'est moi où les phrases se rapprochent d'un livre à l'autre, plus qu'un malheureux demi-interligne dans la partie 3 « Un barrage contre l'Atlantique ». Becbédé narre des réminiscences de son amour torrentiel et cyclonique avec Laura Smet, une inédite tentative de triolisme aussi furieusement people que bandante en prime. Les découvertes simultanées du Cap Ferret et de Barthérote datent de Laura. Pieds nus, son ami règne aujourd'hui en patriarche sur la propriété familiale en équilibre précaire au-dessus des eaux, dans une ambiance, je cite, « entre la Manson Family et la petite maison dans la prairie ». Il est rigoureusement impossible d'écrire 10 fois Barthérote sans faire au moins cette faute. Barthérote a abandonné une vie accomplie de styliste parisien et se bat contre l'Atlantique. Enfin, plutôt, il affirme en accompagner les caprices alors que l'unique ennemi est la vieillesse. En comparaison, entre dépressions et autres pépins d'une santé qui se fendille, son cadet Becbédé sombre assez facilement. On peut payer 300 balles par mois pour l'idée de conserver des affaires de sa fille dans un lointain garde-meuble longtemps après qu'elle est partie. Pour son bien à elle, cela va autant de soi que le déchirement d'un papa réduit à ce genre d'extrémité. Becbédé eut très jeune ses entrées chez le président Mitterrand, dont il a contribué en talent précoce à la réélection avec la rédaction de Globe. Vu de 2022, alors qu'il participe très officiellement au quota de vieux droitards qui parlent sur les radios publiques, sa trajectoire a de quoi amuser. Le défi sublime de Barthérote en a fait un formidable personnage de roman, à défaut d'être voué à autre chose que l'échec, comme l'humanité face à la nature qui la hait. La partie 4, Échec à la solitude, n'est plus qu'un dense paragraphe écrit depuis la cabane louée à Barthérote. D'un coup très littéraire, l'auteur commence par surécrire ses descriptions, puis trouve une manière d'équilibre en décrivant un soir d'automne au Cap Ferret. Tous les soirs y sont différents depuis 40 ans, selon Barthérote. Prenez un nightclubber, fermez les discothèques, vous obtiendrez un ornithologue. Becbédé contemple l'automne naissant de sa vie, sa finitude à lui, agrémentée d'un diabète, celle autrement plus imminente de son père solitaire, aux prises avec Parkinson. Il a l'âge de pardonner à ses parents, voire d'enfin les féliciter pour leur, je cite, « divorce impeccable ». Le grand enfant redoute leur mort qui vient, comme la fin du monde aussi inexorable que celle du Cap Ferret, et se félicite de n'avoir pas fait le vide autour de lui. Lire un livre tout entier en un après-midi apaise le chroniqueur qui se croit surmené.